la date de promulgation de cette encyclique était une date presque emblématique. On sortait de mai 68, on se rappelle le slogan « Il est interdit d'interdire ». Et l'encyclique, bien qu'elle ne soit pas réellement un interdit, va apparaître comme cela. Et donc, elle va vraiment, elle prend tout le monde à contre-pied. Par ailleurs, l'opinion publique catholique savait que la commission qui préparait le texte s'était orientée dans la direction d'une permission plus grande accordée à la contraception et que on voit donc dans le texte de Humanivité que le pape ne suit pas la commission. Or, le Concile Vatican II, eh bien, ne s'est terminé que 3 ans auparavant. On a vu là des évêques qui délibéraient, qui votaient, et le pape qui promulguait les textes votés par les évêques. Et donc, on a un peu le sentiment que cette unanimité dans l'Église entre le pape et les évêques, eh bien, ici, ne fonctionnerait pas de la même façon, où le pape reprendrait la main, si l'on peut dire, en désavouant la commission. Et je pense que ce sont un peu ces deux raisons, la première étant certainement plus forte que la seconde, qui vont conduire à ce que l'encyclique, eh bien, au moins dans les pays occidentaux, ne soit pas bien reçue.
Alors c'est intéressant, vous précisez bien les pays occidentaux, où donc ce texte a reçu un accueil mitigé, voire hostile. Qu'en est-il dans les autres régions du monde, finalement ?
Oui, effectivement, il y a des passages de l'encyclique auxquels nous ne prêtons pas, nous, énormément attention, mais qui visent les pays, notamment où se posaient les problèmes de développement, parce qu'on voyait la population qui augmentait beaucoup et les ressources agricoles qui augmentaient nettement moins vite, disons. Et donc, dès les années 50, s'était posé ce redoutable problème. Et là, effectivement, des gouvernements s'orientaient vers une politique de stérilisation de population, ou au moins, disons, d'une régulation des naissances imposée. Et là, le texte pontifical va clairement prendre position contre ces mouvements, et il sera donc ressenti, effectivement, par les épiscopats comme, disons, une aide, comme un auxiliaire dans leur lutte contre une politique que l'on pourrait presque, pas tout à fait, mais presque, qualifier de totalitaire.
Alors, revenons à Paul VI. Vous l'avez évoqué en début de cette interview. À l'époque, il a été pointé du doigt de façon parfois très véhémente. Il est accusé de n'avoir pas écouté les avis de la commission pontificale. Est-ce que c'est aussi simple que ça ?
Alors je me demande s'il ne les a pas vraiment écoutés, parce que quand on scrute, alors je n'ai pas évidemment en main la correspondance du pape, bien sûr, mais simplement si je regarde le texte de l'encyclique, eh bien le texte de l'encyclique est un texte qui n'est pas aussi naïf que certains, je trouve, l'ont pensé. On voit notamment dedans, à 3 reprises, l'expression de difficulté. Le pape a bien senti certaines des difficultés. Et d'ailleurs, toute la première partie de l'encyclique fait écho à certaines de ces difficultés, notamment les conditions de travail, les conditions de logement, qui rendent difficile le projet d'élever convenablement un grand nombre d'enfants. Par exemple, également d'autres difficultés sur la place des actes conjugaux par rapport à l'amour. Le pape est conscient, me semble-t-il, véritablement de la situation du contexte. Il prend sa position, certes, mais c'est une position qui est réfléchie, qui, je trouve, n'est pas une position naïve. Et puis, il va bien reconnaître aussi les difficultés que les époux chrétiens auront à tenir le chemin qu'il propose. Ce qu'il propose, c'est un chemin qui est personnaliste, qui est un chemin de responsabilité. C'est extraordinaire, le mot de responsabilité, j'ai regardé, revient 17 fois dans l'encyclique. Il y a également, à 5 reprises, le mot effort, à 8 reprises, le mot volonté. On voit effectivement que c'est un chemin exigeant que le pape propose, mais il y a aussi cette conscience chez lui de la difficulté pour les époux chrétiens de mener à bien cette lutte, on pourrait le dire. Alors, on pourrait se dire aussi, mais pourquoi leur propose-t-il autant d'efforts ? Eh bien, parce qu'il est intimement convaincu que l'accomplissement de ces efforts eh bien, ne pourra qu'être bénéfique au couple chrétien, à la famille et à partir de là même à la société.
Pourtant, ce texte a été reçu par beaucoup comme quelque chose de culpabilisant, une condamnation presque.
Dans Humanité, moi je constate que le pape ne renonce à qualifier en termes de péché les actes humains. Alors il va dire, bien entendu, que tel et tel comportement sont à exclure, et il le dit de manière extrêmement nette. Mais quand il parle de péché, eh bien, je crois que c'est à deux reprises seulement, et il dit, eh bien, si le péché, et il parle en général, hein, si le péché a prise sur les époux chrétiens, qu'il recourt à la miséricorde de Dieu dans le sacrement de pénitence. Je me demande si on a suffisamment pris en compte cette position de Paul VI, et si à l'époque, on n'a pas trop lu ce texte en termes de péché, et sans mettre en avant la miséricorde et mettre en avant la capacité de progrès que le chrétien peut avoir et garde toute sa vie. Toujours nous est offerte une possibilité de progrès et en tirant profit de la miséricorde et de la grâce de Dieu qui nous sont toujours offertes.
Alors pourquoi est-ce que à l'époque les oppositions, les arguments se sont concentrés autour de l'infaillibilité pontificale par rapport à ce texte ?
Alors la question effectivement s'est posée de l'infaillibilité de ce texte. Je ne sais pas si le débat a été aussi grand que cela, hein. La question de l'infaillibilité est toujours un petit peu derrière la figure du pape. Certains verraient que le pape serait infaillible un petit peu tout le temps dans chacun des actes de son pontificat. Bon, ça n'est pas du tout ce que le Concile Vatican I avait défini. Alors, ici, l'infaillibilité, je serais assez hésitant pour effectivement affirmer que le texte soit infaillible, ce qui ne voudrait absolument pas dire qu'il faille lui refuser l'autorité très grande qu'il a. C'est une encyclique, c'est-à-dire quand même un des actes du magistère les plus solennels. Mais est-ce que invoquer l'infaillibilité apporterait beaucoup plus ? Je me demande si derrière le mot d'infaillibilité, on ne mettrait pas plutôt le mot d'irréformabilité. Je me demande si c'est pas ça qui était à l'arrière-plan à ce moment-là. Mais en l'occurrence, infaillible ou pas, il y a eu un refus, effectivement, de la part d'une partie de l'opinion.
Alors, 50 ans après, pensez-vous que les catholiques ont fait la paix avec ce document ? Est-ce qu'ils le considèrent aujourd'hui ?
J'ai peur que le document ne soit pas très connu en soi. Vous savez, mon ami Émile Poulla, autrefois, disait de la loi de séparation de 1905, eh bien, qu'il fallait d'abord la lire. On en parle et on ne la connaît pas. Eh bien, j'aurais un peu le même sentiment par rapport à l'encyclique Humanae Vitae. Je trouve que c'est un texte d'abord qui gagne à être relu dans son intégralité, hein, et non pas simplement le paragraphe qui doit être le numéro 14, parce qu'on trouve dedans notamment l'exposé des biens du mariage, sur la pastorale du mariage. Ce que, je vous avoue, comme curé de campagne, j'essaie aussi de développer devant les fiancés que je reçois, eh bien, j'ai retrouvé dans le texte, j'y retrouve tout à fait le même discours. Donc je crois qu'il faudrait le relire. Et on se rendrait compte, justement, la véritable visée de Paul VI, qui est de faire grandir le couple humain, de montrer comment dans le couple humain, eh bien, l'un et l'autre sont responsables du chemin vers la perfection, de conduire l'autre sur le chemin de la perfection. Je crois qu'il y a de très beaux passages de ce texte qui mériteraient d'être repris et d'être médités au sein des familles chrétiennes.